vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je poursuis la lecture du livre de Edward Bled. J'avais un an en 1900. Edward Bled, qui a fait travailler si dur leur grammaire à vos parents et grands-parents, vous leur demanderez. Et là, il raconte sa vie. Donc, j'avais un an en 1900. Et lors d'une lecture précédente, je vous avais raconté le début du chapitre 6 dans lequel il revient sur son lieu de naissance et nous livre une page d'histoire, le 19e siècle, racontée par sa grand-mère qui l'a vécu. Voici donc la suite de ce chapitre. La grand-mère vient de se marier avec Joseph Iselier, maître ciseleur, et elle raconte. À la sortie de la messe, votre père Honoré et Auguste, le père de Joseph, qui avaient apporté leur trompe de chasse, sonnèrent une joyeuse fanfare. Notre cadet Louis dit « Tu devais être contente, grand-mère ?»« Oui, très contente. De plus, tout allait bien. Il y avait du travail. Haussmann refaisait Paris. Des centaines de petites rues, de vieilles églises disparaissaient. À leur place, de grandes et larges avenues, de belles maisons. » Paris était relié aux plus grandes villes de province par le chemin de fer. Le commerce était prospère. L'exposition universelle de 1867 attirait les foules et même les rois qui allaient voir Hortense Schneider aux variétés. « Eh bien, je n'étais pas un roi, » dit mon père, « mais j'ai vu et entendu Hortense Schneider. » La France s'enrichissait. Napoléon III voulait de bons ouvriers bien payés. Il leur donna le droit de grève pour défendre leurs intérêts. Dans la banlieue de Paris, de grands lotissements permettaient d'acquérir à prix modeste des parcelles de terre où l'on pourrait faire construire une maison. Puis ce fut la guerre. Nous étions enfermés dans Paris, manquant de tout. Nous avons mangé les animaux du jardin des plantes, puis du chien, du chat et même des rats payés à prix d'or. Pour clore ce drame, nous avons subi la Commune, ses destructions, les Tuileries en flammes, les tueries entre Français. Tu pourrais ajouter, dit ma mère en riant, que tu avais caché papa Joseph dans un placard pour qu'il reste à l'abri des événements. Nous approchions de la fin du repas. Tout ce qu'avait raconté ma grand-mère n'avait pas été un monologue. Il avait été coupé de questions, d'exclamations. Grand-mère nous quitta, redescendit chez elle pour recevoir ses autres enfants et petits-enfants qui viendraient de Paris lui souhaiter la bonne année. Mon père compléta les souvenirs de ma grand-mère. Mais d'abord, il tenait à nous dire que son père avait vu, dans la cour des Tuileries, Napoléon Ier passer en revue des régiments de sa garde avant leur départ pour la campagne de Russie. Brusquement, sa pensée fit un bond. La plus belle, la plus grande œuvre de la Troisième République fut l'école. Elle permettait à tous les enfants de s'instruire jusqu'à 13 ans et les arrachait ainsi à l'usine et à l'atelier où, jusque-là, il travaillait à partir de 9 ans. La vapeur avait tout changé au milieu du 19e siècle. L'électricité allait amener de plus grands bouleversements. Paul compléta. « J'ai lu, dans ma grammaire, Victor Hugo et Pasteur ont dominé le siècle et le monde nous les envie. » Et mon père, qui avait servi dans le génie, dans un régiment d'aérostiers, et s'était intéressé aux tentatives de Clément Ader, avançait que, dans un temps plus lointain, les hommes se déplaceraient peut-être dans les airs, comme à bicyclette, et en automobile dans les rues. Polo avait dit « Alors, on ne verra plus de chevaux ? Chouette, je n'aurai plus à ramasser le crottin pour le mettre au pied des rosiers. » On avait débarrassé la table. Les visiteurs de ma grand-mère monteraient nous voir. Des assiettes de gâteaux posées sur le buffet les attendaient. On avait installé le gramophone à rouleau et l'on entendait les chansons de Léon Bérard. Plus besoin d'aller au concert. Les chanteurs, sans être là, sont avec nous. Comme tous les dimanches d'hiver, la soirée ne se terminait jamais sans une petite séance de lanterne magique. Un drap blanc était déjà fixé sur une porte du grand placard. L'oncle Auguste arrivait avec sa famille. « Alexandre, c'est fini la lanterne magique. Les photographies de M. Niepce et de M. Daguerre s'animent. » Son fils, le grand Georges, renchérit. « Les gens marchent, gesticulent, les chiens courent après les vélos. Les trains vous arrivent dessus. »« Tu es allé voir le cinématographe ?» lui a demandé mon frère Louis. « Oui, c'est drôlement bien, j'y retournerai. » « Je voudrais être dans un petit coin pour voir ce qui se passera en l'an 2000, » dit mon père. C'est vers mes 10 ans que ma mère m'a raconté tout cela. Nous étions installés l'un près de l'autre, un jeudi d'été, sur un banc dans notre jardin, à l'ombre d'un marronnier. Ma mère avait donné sa conclusion en exprimant des idées qui la hantaient tant son amour pour nous était grand. « Tourner un bouton pour faire jaillir la lumière, c'est très bien, ça profite à tout le monde. » Mais en même temps, on invente des canons, des fusils, qui portent de plus en plus loin. Et j'ai peur pour vous. J'avais en permanence à côté de moi mon frère Jacques, de 4 ans mon aîné. Il me faisait 1000 grimaces pour me faire rire, et je l'imitais en tout. Un de ses plaisirs était de descendre les 2 étages d'escalier sur les fesses. Puis il remontait au plus vite à 4 pattes. J'y arrivais, bien sûr. Mais sous ma robe, je ne portais pas de culotte, si bien que des échardes se piquaient dans mes tendres petites fesses, et je pleurais. Ma mère me soignait à la teinture d'iode. Au bout d'un certain temps, la peau de mes fesses rappelait le pelage d'un léopard. C'est vers mes 3 ans que j'enfilais ma première culotte de velours. C'était un événement pour les garçons. Selon la coutume, il y eut une petite fête à la maison. Je la portais avec fierté. Elle n'était pourtant pas neuve. Ma mère mettait précieusement de côté les vêtements devenus trop étriqués pour mes frères. Dans l'armoire s'empilait un petit stock. Mais voilà, je grandissais si vite qu'une partie dut être distribuée aux enfants du voisinage. J'étais remuant. Ma mère me laissait me dépenser. Mais le soir, quand mon frère Jaco revenait de l'école, elle restait près de lui pendant qu'il faisait ses devoirs. Et moi, aussitôt calmée, je voulais écrire aussi. On m'avait acheté un petit cahier où je croyais écrire. Mais ce n'était naturellement que de capricieux zigzags. On me faisait dîner avant tout le monde, car mon père et mes grands frères ne rentraient jamais avant 8 heures. Ma mère me mettait au lit, m'embrassait et me chuchotait. « Dors bien, mon petit, ton ange gardien veillera sur toi. » Un jour, je demandais à ma mère qui était cet ange gardien. Elle m'expliqua. Je voulus voir cet ange qui était mon ami. Je luttais contre le sommeil. J'en trouvais furtivement les yeux pour le surprendre. Je n'y parvins jamais. Ma mère me dit « Tu ne le verras pas, il ne vient que lorsque les enfants dorment pour les protéger. » Je crois avoir trouvé. Les anges gardiens des enfants sont leurs parents qui leur ont donné la vie et guidé leurs premiers pas. Plus tard, quand ces enfants ont pris quelque distance et croient maîtriser leur existence, ils reviennent parfois vers leurs anges gardiens qui, avec leurs cheveux blancs, sont riches d'expérience et de sagesse. Si je n'avais pu voir mon ange gardien, j'avais 2 amis, une petite chatte, la mouine, et un grand chien, Turc. La mouine avait le poil roux, des yeux verts pailletés d'or, traversés d'une fente noire. Son regard était énigmatique, comme celui de tous les chats. Elle passait une grande partie de la journée à somnoler sur un coussin posé sur une chaise près de notre grand poêle Schuberski. Cependant, elle jouait volontiers, mais quand elle jugeait que cela suffisait, elle détendait une patte toute griffe dehors. Il n'en était pas de même de Turc, qui portait dans ses grands yeux toute la bonté du monde. C'était un Saint-Bernard, feu et blanc. Pour nous, c'était le 8e enfant de la famille. C'est dire si nous aimions ce fidèle compagnon de nos jeux. Mon père lui avait construit une niche, solide et spacieuse, posée sur un soubassement de briques. Le toit protégé par du papier goudronné. Un bon matelas de paille, notre Turc était bien à son aise. J'avais un cheval mécanique qui me venait de mes frères. Je m'amusais bien, je lui parlais, je lui donnais des ordres, et je croyais qu'il m'obéissait. Et voilà que Turc me fit des amitiés, se frottant contre moi, me léchant les mains. Je délaissai complètement mon cheval pour le chien si vivant et si amical. Et un jour, à quatre pattes, j'entrai dans sa niche. J'y étais si bien que je m'endormis, tandis que Turc, la tête sur ses pattes, impassible, semblait contempler le paysage. Étonnée de ne pas m'entendre, ma mère m'avait appelée par la fenêtre, cherchée dans toute la maison, puis dans le jardin. « Édouard, Édouard !» Ma grand-mère l'avait rassurée. « La grille est fermée à clé, il n'a pu sortir. » Turc suivait ce remue-ménage d'un œil narquois. « Allez, cherchez. Pour l'instant, il dort. Laissez-le tranquille. » Je m'éveillais et passais ma tête à côté de celle de mon protecteur. Rassuré, chacun riait. Souvent, par la suite, j'allais tenir compagnie à mon ami et nous nous endormions ensemble, blottis l'un contre l'autre. S'il était doux et affectueux envers nous, il montrait ses crocs et grondait quand des inconnus pénétraient dans le jardin de ma grand-mère ou que des maraudeurs s'introduisaient la nuit dans notre grand jardin de l'autre côté de la rue pour chaparder un potiron, quelques salades ou même des rosiers nouvellement plantés. Le dimanche, mes frères le promenaient. Dans la rue, il était docile, mais dès qu'ils arrivaient dans la plaine, Turc tirait si brusquement la chaîne que mes frères étaient obligés de la lâcher. Il filait comme une flèche. Les lévriers n'étaient pas ses cousins. Notre Turc, haletant, la langue pendante, rentrait seul, s'installait dans sa niche, attendait qu'on l'attache, et nous regardait goguenard. S'il existe un paradis pour les chiens, je suis persuadée qu'il y a sa place et que le bon Saint-Pierre l'a prise en amitié. Voilà ce qu'Edouard Blaide raconte de sa vie au numéro 12 dans sa rue, dans la maison de sa grand-mère. J'aurais aimé continuer, mais le temps passe. Alors, un grand merci à Roland à la technique. Et puis à vous, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous lire la suite du livre. Il en vaut vraiment la peine. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.